Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis 2017, en France, 5 attentats émanant de l'ultra-droite ont été déjoués par les services de renseignement. Un livre vient de sortir sur cette mouvance hétéroclite et active, La Poudrière, chez Grasset. Deux de ses auteurs sont dans Code Source aujourd'hui pour nous raconter ce qu'ils ont appris en travaillant sur le sujet depuis 2 ans, Pauline Guénat et Jean-Michel Décugis, journalistes au service police-justice du Parisien. Jean-Michel Décugis, dans la conclusion de votre livre avec vos co-auteurs, vous ne cachez pas que vous n'avez aucune sympathie pour ces groupuscules d'ultra-droite, mais dans tout le livre, vous restez très factuel, sans jugement de valeur.
On fait ce livre parce que on a remarqué qu'il y avait une montée de l'ultra-droite, et ce qui nous intéressait, c'est de savoir qui étaient ces militants de l'ultra-droite, qu'est-ce qu'ils pensaient, comment ils s'organisaient. Et ce n'est pas à nous à poser des jugements moraux. Donc on fait un travail journalistique.
Pauline Guénat, l'ultra-droite, aujourd'hui en France, ça représente des courants et des individus très différents les uns des autres ?
On dit souvent que l'ultra-droite est une nébuleuse. Ça va de personnalités extrêmement antisémites comme Yvan Benedetti, qui est négationniste, à d'autres qui pensent que c'est davantage l'islam le problème. Donc c'est une galaxie composite et très variée.
Quand on dit ultra-droite, quelle est la différence avec l'extrême-droite ?
L'ultra-droite se situe en dehors du champ politique, en fait. C'est ce qui porte atteinte à l'ordre public. Donc c'est en marge de l'extrême droite, même si certaines idées peuvent être communes.
Jean-Michel Décugis, d'après des estimations, l'ultra-droite représenterait quelques milliers de personnes en France, peut-être 3000. Qu'est-ce qui les a mobilisés dans les années 2010 ?
En fait, ils sont revenus visibles dans la rue avec la manif pour tous. Et puis ensuite, bon, il y a eu les attentats de 2015. Et puis la crise des Gilets jaunes, où on voit l'ultra-droite très présente à ces moments-là. Et puis aujourd'hui, bien, il y a le confinement. L'ultra-droite a su s'accaparer la toile parce que justement, ils étaient coupés des médias traditionnels. Et du coup, ils ont investi de façon massive les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ils sont totalement omniprésents. Et c'est une caisse de résonance très importante pour eux.
Ce livre, La Poudrière, est une galerie de portraits de personnages clés, connus ou inconnus de l'ultra-droite en France. Pauline Guénat, vous êtes écrivaine, vous écrivez des fictions et des enquêtes. Pourquoi faites-vous régulièrement ce travail d'enquête, ce travail de journaliste finalement ?
C'est un moyen d'ausculter la société, de rencontrer des gens très différents qu'on a du mal à toucher et avec qui on a du mal à entrer en contact quand on est seul dans sa chambre. Le travail d'écrivain, c'est un travail très solitaire. Donc c'est un désir un petit peu d'aller voir ce qui se passe dans la rue.
Jean-Michel Décugis, ce livre commence par le mouvement des Gilets jaunes et le saccage de l'Arc de Triomphe. Le samedi 1er décembre 2018, saccage commis, on le sait aujourd'hui, par des militants d'ultra-droite.
Alors pas seulement, mais parce qu'il y avait des Gilets jaunes aussi, mais c'est vrai que ceux qui ont été interpellés et condamnés sont en majorité des gens de l'ultra-droite. D'abord, il y a eu un certain Sébastien F., dit le sanglier, qui n'a rien trouvé de mieux que de taguer son pseudo sur l'Arc de Triomphe. Et puis, il y a eu 6 militants de l'ultra-droite, ce qu'on appelle les Zouaves Paris, qui ont aussi été condamnés, dont leur chef, présumé, Marc de Caqueret, qui est quelqu'un d'intéressant puisqu'il est issu d'une famille ultra traditionnaliste avec un abbé qui fait partie de la fraternité Saint-Pie VI, un élu RN et qui est quelqu'un qui va bientôt passer au tribunal pour avoir agressé avec des acolytes des gens d'un bar antifa.
Dans le cadre de votre enquête, vous rencontrez dans les Ardennes un certain Didier qui a participé aux manifestations violentes à Paris et qui a même appelé dans une vidéo sur YouTube, filmée près de l'Arc de Triomphe, à tuer des policiers et à trancher la tête des députés.
C'est quelqu'un qui est en colère, qui est un petit entrepreneur de 35 ans et qui ne supporte plus la politique. Et c'est quelqu'un de dangereux parce que c'est un homme aujourd'hui isolé et qui est prêt à prendre les armes. D'ailleurs, il a des armes. Il dit avec un ami avoir fabriqué des explosifs. Enfin, il est prêt à faire la guerre.
Pauline Guéna, il y a un homme que vous n'avez pas eu de difficulté à rencontrer, c'est Renaud Camus, 74 ans, considéré comme l'inventeur de la formule « le grand remplacement ». D'abord, est-ce que c'est vrai? D'où vient cette expression?
En fait, cette idée du grand remplacement, elle vient du nazisme. L'idée était que la société était attaquée de l'intérieur par les juifs. Et Renaud Camus, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a modernisé cette formule en la débarrassant de sa composante antisémite. Donc, il l'a rendue plus en phase avec le climat un peu anti-islam qu'on trouve en France aujourd'hui.
Pour lui, que veut dire le grand remplacement aujourd'hui ?
Pour lui, c'est considérer l'immigration comme une colonisation. Renaud Camus pense que la France est victime d'une colonisation venue d'Afrique de l'Ouest, une colonisation musulmane contre laquelle il faut combattre. Et il appelle, en fait, les Français à se lancer dans une guerre de décolonisation.
Je crois que l'Europe est beaucoup plus profondément colonisée qu'elle n'a jamais colonisé l'Afrique. On peut parler de la submersion migratoire, de la substitution ethnique, de l'invasion, du changement de peuple et de civilisation.
Renaud Camus vous a reçu chez lui, dans un petit village du Gers. C'est comment chez lui ?
Exactement, il habite un château classé. Je crois que c'est le dernier château gascon de France. Donc il le fait visiter, comme c'est un monument national. Ce qui fait que pendant notre rendez-vous, son compagnon recevait des touristes, des dames anglaises. Il nous a reçus très gentiment, très agréablement, très courtoisement, autour d'une tasse de thé.
Pour les militants de l'ultra-droite, quelqu'un comme lui, ça donne de la crédibilité à leurs idées, à leurs opinions ?
Bien sûr, d'abord ça donne de la crédibilité parce que Renaud Camus est un intellectuel et que le grand remplacement c'est une espèce de formule un peu publicitaire, assez marketing, c'est facile à retenir, c'est facile à expliquer, ça frappe les esprits, donc c'est utile. Et ça donne en fait un point commun à des groupuscules très différents qui n'en ont pas forcément. Le grand remplacement, c'est quelque chose qu'ils reconnaissent tous, dans lequel ils se reconnaissent tous, contre lequel ils veulent lutter. Et ce que fait Renaud Camus, c'est qu'il parle de grand remplacement sans jamais le légitimer par des chiffres, par une enquête sociologique, etc. Donc, confronté à l'opposition de démographes, de sociologues, etc., il dit « Mais enfin, voyons, il suffit de sortir dans la rue pour le voir. » Or, évidemment, à l'échelle d'un pays comme la France, de plus de 60 millions d'habitants, il ne suffit pas de se promener dans la rue pour bâtir une thèse sociologique.
Lui, d'un mot, n'est pas antisémite. Hein.
Non, Renaud Camus n'est pas antisémite. D'ailleurs, il considère que la remarque de Jean-Marie Le Pen sur le détail est impardonnable. Et il n'a jamais appelé à voter Jean-Marie Le Pen.
Jean-Marie Le Pen qui avait parlé de détails de l'histoire au sujet des chambres à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale. Jean-Michel Lécugis, dans un tout autre registre, vous avez pu parler avec deux représentants des brigandes. D'abord, c'est quoi les brigandes ?
Les Brigandes, c'est d'abord un groupe musical de trois jeunes filles nationalistes. Ce sont des millions de vues pour certains morceaux, tels le fameux grand remplacement. Et puis, c'est aussi une secte dans un petit village de Haut-Hérault qui s'appelle Salvetta et où ils s'organisent autour bien d'un gourou qui s'appelle Joël Labruyère, qui est un Belge, quelqu'un qui vient de la scientologie.
D'un point de vue prophétique, l'humanité va être scindée en deux. C'est écrit. Les élus et ceux qui sont perdus.
Il y a une trentaine de personnes avec des enfants qui ne vont plus à l'école, hein, qui sont à la communauté fait l'école. Les brigandes défendent un ordre naturel dans lequel le rôle de la femme serait d'élever ses enfants. Alors, il y a eu une commission d'enquête parlementaire, hein, sur les groupuscules d'extrême droite et elles sont considérées comme un groupuscule d'extrême droite.
Les brigandes sont appréciées par Jean-Marie Le Pen et c'est réciproque. Comment est-ce qu'elles se définissent, elles, politiquement ?
Elles ne se définissent pas comme un groupe d'extrême droite. Elles considèrent que la théorie du remplacement est une théorie qui existe. Elles sont contre la mondialisation. Elles prônent un repli sur soi, quand même des idées qui sont véhiculées par l'extrême droite.
Chacun chez soi.
Jean-Michel Descugis, Pauline Guénat, votre enquête vous a aussi amené à Angers, où l'ultra-droite est bien implantée.
À Angers, on a rencontré Jean-Eudes Gana, qui est le fils d'un cadre du Front National et qui a ouvert en plein centre-ville un petit bar associatif qui s'appelle l'Alvarium. Il pratique, par exemple, des maraudes à destination des sans-abri en affirmant avec fierté qu'il pratique la préférence nationale et que donc il distribue leurs vivres aux sans-abri blancs, français ou européens de souche.
Ensuite, se balader dans les rues d'Angers pour voir qu'il y a un certain nombre d'hôtels qui hébergent des migrants. Des gens originaires notamment d'Afrique de l'Est, tandis qu'un certain nombre de nos compatriotes, tout aussi nombreux, dorment dans la rue ou alors ont beaucoup de mal à boucler les fins de mois.
Comme Renaud Camus dit, il n'y a qu'à regarder autour de nous pour le voir. Comme Renaud Camus ne le justifie pas, il vient d'une famille catholique, mais c'est un garçon qui a beaucoup voyagé. Ça nous a paru très intéressant parce qu'on le retrouve en fait sur différents théâtres d'affrontements à l'étranger sur lesquels le Front National a été actif. Il est allé en Ukraine, il est allé en Syrie. Il était récemment sur l'île de Lesbos où il y avait le grand camp de migrants de la Moria qui a brûlé depuis et où il y a eu des affrontements entre extrême droite et extrême gauche. Et Jean-Eudes Gana est allé partout. Il est allé également d'ailleurs à Rome, à la Casa Pound en Italie.
Casa Pound qui est un mouvement ouvertement fasciste en Italie. Justement, pour ce livre, vous avez été à Rome pour rencontrer un plus gros poisson, Logan Gian, 31 ans, ancien chef du GUD, une organisation étudiante d'extrême droite et cofondateur d'un autre mouvement, le Bastion Social, c'est ça ?
Oui, il s'est réfugié à Rome, d'ailleurs comme d'autres militants de l'extrême droite. Et donc Gian est là-bas parce qu'il a fui un peu les autorités judiciaires et policières de la France. Il était harcelé, c'est son expression, par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et nous, on l'a rencontré parce que c'est un ancien du GUD qui m'a mis en contact avec lui. C'est quelqu'un de costaud, hein, de sportif, d'athlétique, qui est tatoué de la tête aux pieds et qui est assez impressionnant. Et on sent bien qu'il ne faut pas trop l'embêter.
Parmi ses faits d'armes, il s'en a été pris physiquement à un ancien président du GUD.
Exactement, il y a une vidéo qui a été diffusée, dont certains extraits ont été diffusés sur Internet, sur lesquels on voit Logan Gian et deux autres personnes s'en prendre à Édouard Klein, qui est son prédécesseur à la tête du GUD. L'agression est extrêmement violente et humiliante.
T'attends quoi, putain de poil ? Dépêche-toi !
Il n'a pas encore été jugé pour ça, il est seulement mis en examen.
Il a été inquiété pour d'autres faits par la justice ?
Oui, pour des violences en marge de manifestation. Il s'en est pris à un photographe à la fin d'une manifestation, à des fémènes et à Caroline Fourest. D'où il dit en riant « mais je n'avais pas vu que c'était une femme, comme elle a les cheveux courts ».
Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous le rencontrez ? Qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui pour la France ?
Logan Gian, par exemple, il dit « Éric Zemmour est quelqu'un de très intéressant. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il soit juif. C'est pour ça que certains d'entre nous ne l'aiment pas beaucoup. » Et sinon, évidemment, voilà, la théorie du grand remplacement, la volonté d'une remigration, c'est-à-dire le renvoi dans leur pays d'origine de gens, peu importe qu'ils soient français. D'ailleurs, ils appellent ça les Français de papier. Français de nationalité, ça ne veut rien dire pour eux. La question, c'est savoir si on est français d'origine européenne, intramuros, de couleur blanche, etc.
Et dans votre livre, l'un des chapitres les plus inquiétants est peut-être celui consacré au mouvement AFO. Jean-Michel Descugis, ce mouvement a fait parler de lui en 2018. C'est quoi d'abord AFO ?
C'est Action des Forces Opérationnelles. C'est des militants survivalistes qui sont insérés dans la société. Et là, on a affaire à d'anciens policiers, anciens gendarmes, anciens militaires, qui sont bien organisés, qui ont un attrait important pour les armes et qui considèrent que bien il y a un péril islamiste, que l'État aujourd'hui est totalement défaillant, que les forces de l'ordre sont défaillantes et que c'est à eux, à reprendre le flambeau pour défendre la France. Et donc, c'est des gens qui, pendant des mois, ont communiqué, ont évolué dans le secret et qui avaient des surnoms, Richelieu, Cortés, et des gens qui étaient surarmés.
Et donc, en 2018, au moment où ce groupe est démantelé, ils préparaient des actions violentes.
Alors, ils avaient ce projet qui a été déjoué d'action violente contre des imams radicalisés, mais pas seulement, contre les musulmans tout court, des femmes voilées.
10 personnes ont été interpellées ce week-end.
Soupçonnées d'avoir préparé des attaques contre des musulmans.
Il y a un ancien policier notamment, peut-être d'anciens gendarmes ou anciens militaires.
Oui, ils ciblaient notamment des imams radicaux, des détenus islamistes qui sortaient de prison ou encore des femmes voilées choisies au hasard dans la rue.
Mais aussi, ils voulaient empoisonner les barquettes halal dans les supermarchés. Et ils avaient aussi fabriqué ce fameux TATP, qui est un explosif très dangereux et très instable aussi. Et ils faisaient des essais dans la race campagne. Ils s'entraînaient à tirer. Enfin, bon, voilà, c'était totalement paramilitaire et totalement paranoïaque.
Et vous avez pu rencontrer, dans le cadre de votre enquête, l'un de ses membres, Pauline Guéna, un certain Michel. Qu'est-ce qu'il vous raconte ?
Il pense que un des dangers qui guette la France, c'est un soulèvement des banlieues qui s'en prendrait, en fait, au reste des Français. Donc, pour ça, dans cette hypothèse, ils se préparent. Donc, ils apprennent à se débrouiller, comme ils disent, dans la verte. C'est-à-dire, s'ils devaient marcher, par exemple, pendant 3 semaines sans jamais croiser un village, comment survivre. Ils prévoient des sacs avec des denrées alimentaires, avec des pansements, avec etc. Un réseau, en fait, comme ça, qui leur permettrait de s'enfuir de chez eux quand les banlieues se soulèveront.
Au loin, une maison partiellement détruite et des ruines encore fumantes. Quelques heures après la mort de 3 gendarmes tués en pleine nuit par un forcené.
Quelques jours avant la sortie de votre livre, juste avant Noël, dans le Puy-de-Dôme à Saint-Just, un forcené incendie sa maison, il voulait tuer sa femme. Il tue 3 gendarmes. Le procureur parle d'une véritable scène de guerre. Jean-Michel Descugis, cet homme de 48 ans, Frédéric Limoll, était un survivaliste, radicalisé, imprégné des idées de l'ultra-droite. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça précisément ?
Ben d'abord, ses proches le disent, c'était un catholique intégriste. Il disait qu'il allait tuer des policiers, donc c'était prémédité. Et il s'apprêtait à faire la guerre, il était surarmé. Il faut savoir qu'il avait même piégé sa portière passagère avec une arme qu'il avait reliée par un tendeur à la portière et qui pouvait faire feu quand on ouvrait la portière. Enfin, c'est quelqu'un qui était totalement préparé, qui n'était pas connu des services de renseignement. Et c'est bien ça tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a tout un tas de personnages dangereux, isolés, peut-être des fameux loups solitaires qui ne sont pas aujourd'hui répertoriés dans le champ de l'ultra-droite.
Les services de renseignement sont un peu dépassés sur ce terrain-là aujourd'hui ?
Dépassés, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont accaparés par la menace islamiste, alors que la menace de l'ultra-droite, c'est une menace en miroir de la menace islamiste. Et on sait qu'à chaque fois qu'il y a un attentat islamiste en France, eh bien, il y a une montée des actes de violence, notamment contre les musulmans. Et à chaque fois, il y a des gens qui sont victimes de violence après des attentats islamistes.
D'où ce titre, La Poudrière ?
On est dans une situation explosive, avec une radicalisation rampante, un déferlement de haine en ligne, une sous-évaluation totale de cette menace.
Pauline Guéna, on le disait au début de cet épisode, vous écrivez aussi des fictions, des romans ou des scénarios. Est-ce que cette enquête, qui a duré environ 2 ans, vous a donné envie d'inventer des personnages à partir de ces rencontres ?
Pas du tout. Je dois avouer qu'après 2 ans passés à faire de la veille en ligne et à rencontrer des gens dont les idées très radicales sont très éloignées des miennes, j'ai vraiment envie de passer à autre chose.
Merci Pauline Guéna, Jean-Michel Descugis. Votre livre, coécrit avec Marc Le Plongeon, La Poudrière, est sorti le 6 janvier chez Grasset. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation, Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou Google Podcasts par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.